Midi et demi sur France Culture. Tout de suite, le journal Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Priorité à l'emploi pour les salariés de General Electric. Les Belfortins approuvent le plan qui permet de sauvegarder un tiers des postes menacés. Mais à quel prix? Nous verrons cela dès le début de ce journal.
Dans votre journal également, la situation qui s'envenime à la SNCF et derrière le droit de retrait exercé par plusieurs agents se cachent sans doute les inquiétudes liées à la réforme des retraites.
À un mois de la clôture du Grenelle contre les violences conjugales, des spécialistes de l'addiction s'alarment. On ne parle pas suffisamment, selon eux, de l'alcool, pourtant facteur majeur de cette violence. Pour aborder ce sujet, le professeur Benyamina, président de la Fédération d'addictologie, est l'invité de ce journal.
Au Liban, le gouvernement parviendra-t-il à calmer la colère du peuple? Il se penche en tout cas sur une série de réformes après 4 jours de manifestations dans tout le pays.
Dans ce journal, nous ferons le point aussi sur la situation au Chili où 7 personnes sont mortes depuis le début des émeutes il y a 3 jours. Et nous irons au Canada à quelques minutes de l'ouverture des bureaux de vote pour les législatives. À 12h55, Olivia, dans la suite de la Grande Table.
École, terrain miné et malaise, enseignants, nous en parlerons avec nos deux invités. La journaliste Marion Armengaud qui signe Ils ont tué l'école au seuil et la sociologue de l'éducation Anne Barrère qui a lancé une tribune sous forme d'appel alerte récemment dans Le Monde sur l'isolement du personnel enseignant dans l'éducation nationale aujourd'hui. Comment en sortir? Comment désenclaver la profession?
Merci et à tout à l'heure. Les salariés de General Electric à Belfort ont voté, visés par un plan social. Ils avaient 2 options proposées par la direction. Ils ont opté pour celle qui sauve le plus d'emplois. 307 postes sur les 800 menacés seraient préservés. Un vote à main levée que vous avez suivi. Voici la guitoune.
Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ici dans le hall du bâtiment rouge brique, bâtiment historique de General Electric. Ils sont installés sur les passerelles, sur les coursives, et lèvent la main pour dire oui à ce projet, provoquant la colère de certains, comme Laurent qui s'est senti trahi. Ça fait 20 ans que je bosse pour eux. J'ai laissé ma santé, ma vie de couple, dit-il, avant de couper court à notre interview et de s'en aller en pleurs. Nicolas, un ingénieur de vie, sort lui aussi du hall du bâtiment avec toujours la même boule au ventre, dit-il, une boule au ventre qu'il a depuis 4 mois maintenant, depuis l'annonce du plan social. Il a, lui, levé la main aussi pour dire oui à ce nouveau plan proposé par la direction. Il m'explique, voilà, on a sauvé 300 postes, c'est 300 collègues qui vont rester. Et il ressort alors les arguments défendus par les syndicats ce matin devant l'Assemblée Générale. On a sauvé la production, l'avenir du site est préservé par ce nouvel accord qu'il va falloir encore discuter pendant quelques semaines avec la direction.
Voici la guitoune sur le site de General Electric pour France Bleu Belfort. Le trafic s'améliore à la SNCF, mais le conflit perdure. Seuls les TER et les intercités circulent encore au ralenti. Conséquence du bras de fer entre syndicats et direction autour du droit de retrait exercé par plusieurs agents après un accident de TER mercredi. Droit de retrait détourné, dénonce le gouvernement à l'image du secrétaire d'État Gabriel Attal.
Il y a eu un accident. Mais on voit bien que un syndicat, notamment peut-être des syndicats, ont pris appui sur cet accident pour 48 heures après engager ce qu'ils ont appelé un droit de retrait avec des conducteurs qui ne circulent pas du tout sur des trains qui sont les mêmes que celui qui a connu cet accident, c'est-à-dire des TER, donc des Ouigo, des TGV, et qui, derrière un prétendu droit de retrait, ont en fait engagé une grève sans préavis, qui est tombée sur des familles qui partaient en vacances. Les trains qui ont été les plus impactés, c'est en plus les Ouigo. C'est toujours les mêmes qui trinquent. Là, c'est encore des personnes qui n'ont pas énormément de moyens, qui avaient réservé à l'avance leurs billets et qui se sont retrouvés dans la panne. Évidemment que quand il y a un accident comme celui qui a eu lieu, il faut regarder ce qui s'est passé. Mais pour ça, il y a le dialogue social, il y a la discussion entre la direction et les syndicats. Mais il faut faire la part des choses. Il y a des enjeux très concrets de sécurité pour les conducteurs et pour les passagers qui doivent être tenus. Et ça fait l'objet des discussions classiques dans une entreprise comme la SNCF. Et puis après, il y a l'enjeu du droit de retrait qui ne doit pas être détourné pour engager une action spectaculaire le jour des vacances. Et encore une fois, que ça soit toujours les mêmes qui trinquent.
Le secrétaire d'État Gabriel Attal, invité de nos confrères de France Info ce matin. Alors voilà qui ne devrait pas apaiser un contexte déjà tendu entre le gouvernement et les salariés de la SNCF, avec évidemment, Stéphane Robert, la réforme des retraites en ligne de mire.
Oui, ce mouvement social à la SNCF est en partie lié à la réforme des retraites, puisque les syndicats ont d'ores et déjà programmé une grève interprofessionnelle le 5 décembre prochain. Grève reconductible, avec l'espoir qu'elle cristallise les mécontentements et qu'elle fasse reculer le pouvoir exécutif dans sa volonté de supprimer les régimes spéciaux et d'instaurer un système universel, le même pour tous. Le projet du gouvernement génère un peu partout de l'inquiétude et parfois de la contestation, chacune des catégories socio-professionnelles ayant peur de perdre ce que lui offre le régime auquel elle est rattachée. Mais c'est d'autant plus vrai pour les salariés qui disposent de régimes particulièrement avantageux comme à la RATP ou à la SNCF, où l'on peut partir en retraite à 52 ou à 57 ans. Alors, les mécontentements sont-ils susceptibles de s'agréger, comme en 1995 avec la réforme Juppé ? L'exécutif nourrit quelques craintes du fait d'un contexte social tendu. Beaucoup au gouvernement estiment que si le mouvement des Gilets jaunes s'est endormi, la colère et la défiance qui l'ont généré sont loin d'être apaisées. Or, pour Emmanuel Macron, cette réforme est cruciale à plus d'un titre. D'abord, c'est une promesse de campagne, un engagement d'autant plus important à tenir qu'aucun de ses prédécesseurs à l'Élysée n'avait jusqu'ici réussi à remettre en cause les régimes spéciaux. Ensuite, si le chef de l'État devait renoncer, ce serait un coup d'arrêt à son action et à sa capacité réformatrice. La suite du quinquennat deviendrait pour lui particulièrement pénible. Et puis, cette réforme correspond pleinement à sa vision de la société française et à la manière dont il imagine qu'elle doit se transformer. La France, selon Emmanuel Macron, est aujourd'hui corsetée par des intérêts catégoriels qui maintiennent chacun dans un statut et une condition dont il ne peut pas s'extraire. Il y a donc pour le président à la fois la crainte qu'une partie du pays se cabre contre sa réforme et la considération qu'il n'a pas le droit d'échouer.
Stéphane Robert. La République En Marche s'offre une jambe gauche. 72 élus et anciens élus PS et écologistes signent un manifeste pour un pôle de gauche dans la majorité. Une tribune publiée hier dans le journal du dimanche. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
C'est l'aboutissement de plusieurs mois de manœuvres politiques.
Plusieurs mois de manœuvres qui auraient démarré juste après les européennes. En chef d'orchestre, deux ministres, deux ex-socialistes, Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères et le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt. Ils ont donc réuni 72 élus de tous les échelons, du maire aux parlementaires. Nombreux d'entre eux avaient déjà pris leur distance avec le PS, comme Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon, passé chez LREM, mais aussi l'ancien secrétaire d'État François Loncle, qui avait parrainé Emmanuel Macron à la présidentielle, ou encore le sénateur socialiste Xavier Iacovelli. Lui vient de lancer sa troisième campagne municipale à Suresnes en sollicitant l'appui d'En Marche. Tous se disent convaincus, je cite, qu'il faut élargir la majorité présidentielle, la rendre plus pluraliste et y faire entendre fortement une voix sociale et républicaine. Territoire de progrès, c'est le nom de ce nouveau pôle de la majorité, un pôle qu'on pourrait comparer à celui d'Agir, cette droite dite constructive créée en 2017 par l'actuel ministre de la Culture, Franck Riester, une association devenue au fil des mois un refuge pour de nombreux élus LR. Il faut dire en effet que ce type de structure est souple, elle permet des appartenances multiples et ce n'est pas sans intérêt à quelques mois des municipales, scrutin qui, pour rappel, sera suivi dès l'an prochain par les sénatoriales cantonales et régionales. La stratégie vise clairement à siphonner le Parti Socialiste, ce qui met d'ailleurs mal à l'aise certains signataires. Ils sont trois à s'être retirés depuis hier, comme l'ancien sénateur socialiste Jean Besson. Au siège des socialistes à Ivry-sur-Seine, on ne s'étonne même plus. Pour Olivier Faure, le premier secrétaire, rien de nouveau sous le soleil. Il rappelle que la plupart des signataires n'étaient plus encartés, une initiative précipitée et qui vise, selon lui, à faire oublier la séquence désastreuse des derniers jours sur le voile et l'immigration.
Anne Fauquemberg du service politique de France Culture. Quatre ans après les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis, les juges d'instruction ont terminé leurs investigations. Le parquet antiterroriste a un mois pour rendre son réquisitoire. Le coût des travaux avait plus que doublé. Jean Nouvel porte plainte contre la Philharmonie de Paris qui réclame à l'architecte 170 millions d'euros. Bonjour Laura Lavenne.
Bonjour à tous.
Laura, dans cette histoire, tout part d'un gros dérapage budgétaire lors des travaux de la salle de concert parisienne.
Un dérapage qui a coûté au service public, à l'État et à la ville de Paris deux fois plus cher que prévu. Le chantier estimé lors de son lancement en 2009 à 117 millions d'euros a finalement frôlé les 386 millions d'euros à l'arrivée, c'est-à-dire au moment de l'inauguration en 2015. C'est la raison pour laquelle la Philharmonie se retourne aujourd'hui contre l'architecte. Parmi les 170 millions d'euros réclamés, elle en exige 110 millions rien que pour le retard pris par le chantier. Une somme totalement surréaliste, absurde, de l'avis de William Bordon, l'un des avocats de Jean Nouvel.
On a abouti à cette somme totalement extravagante, 110 millions. Deux siècles de jours de retard, enfin, vous voyez bien que c'est totalement romanesque. Il faut que la vérité émerge, il faut que les masques se lèvent sur cette logique qui a conduit de façon très caricaturale un groupe de gens à vouloir à tout prix par n'importe quel moyen, et des moyens légaux, c'est ce que nous pensons fermement, faire de l'architecte le bouc émissaire de l'emballement du coût de ce chantier.
Toujours selon les avocats de Jean Nouvel, le chantier, les coûts, les délais, tout s'est fait dans son dos. Ils disent disposer de moyens très sérieux pour le démontrer, des documents signés par la Philharmonie avec le tampon du cabinet de Jean Nouvel, sans que l'architecte ne soit consulté, d'où cette plainte pour faux et usage de faux. Plainte également pour détournement de fonds publics. La défense de Jean Nouvel accuse la Philharmonie d'avoir dérogé aux règles des marchés publics en négociant directement avec l'entreprise Bouygues Télécom. De son côté, la Philharmonie, elle, ne souhaite pas réagir pour le moment.
Précision signée Laura Lavenne. N'y aurait-il pas un grand absent au Grenelle des violences conjugales? Si, s'alarment des spécialistes de l'addiction et des proches de malades alcooliques, on oublie de parler de l'alcool, estiment les signataires de deux lettres ouvertes adressées au gouvernement. Bonjour professeur Amine Benyamina.
Bonjour.
Vous êtes addictologue, président de la Fédération française d'addictologie, et vous signez l'une de ces lettres. Pourquoi? Quel message vous voulez faire passer?
Le message est simple. Parler des violences subies ou bien dont sont victimes les femmes, sans parler des problèmes d'addiction et de l'alcool en particulier, c'est ignorer que la moitié des femmes font partie du trio finalement addiction, personnes violentées et personnes violentes dans ce constat terrible. Les chiffres d'ailleurs, on le sait, sont terribles. On s'est amusé entre guillemets à analyser les féminicides survenus en 2018 et on s'est rendu compte que 55% des cas, dans 55% des cas au moins, l'un des deux, auteur ou victime, était sous l'emprise d'une substance. Évidemment, l'alcool étant le champion de toute catégorie, mais on retrouve des stupéfiants et autres produits. Donc, il nous a semblé quand même terrible d'un sujet de société important de l'aborder de cette façon sans réellement prendre la mesure de la place des toxiques dans cette violence subie.
Mais comment ça s'explique selon vous? Vous le rappeliez, 121 femmes tuées l'an dernier par leur conjoint. Dans plus de la moitié des cas, on retrouve de l'alcool ou de la drogue. Comment on explique que ce sujet ne soit pas suffisamment abordé dans ce Grenelle?
Parce que l'alcool est... pourquoi on se l'explique? Je pense que les personnes sont de bonne foi, hein. Elles sont concentrées sur la personne violente, la personne qui subit la violence, et on oublie simplement qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles cette violence est décuplée. Et c'est à nous de le faire, et c'est à nous d'attirer l'attention des pouvoirs publics et des décideurs politiques. L'alcool, on l'oublie très souvent, est un facteur majeur, causal des violences envers les femmes. On le retrouve très très souvent. Et d'ailleurs, ce n'est pas simplement un constat de police ou un constat de société. La littérature internationale scientifique le rapporte sur le plan épidémiologique, elle rapporte aussi sur des essais. On a fait consommer du placebo, c'est-à-dire ce qui n'est pas de l'alcool, et de l'alcool à des hommes et dans une relation de couple, et on voit bien que le passage à l'acte verbal, des insultes, des violences, des humiliations, est bien plus important que ceux qui consommaient un placebo.
Mais pardon, professeur Benyamina, que peuvent faire les pouvoirs publics sur ce sujet en particulier?
Eh bien, d'abord et avant tout, essayer de connaître l'ampleur du phénomène pour venir étayer ce qu'on dit, prendre des mesures visant à diminuer la consommation globale d'alcool. On le voit déjà pour la santé des Français, mais là, pour le coup, pour ce qui est de la violence, on peut mettre en place des choses assez simplement. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas ni le temps ni le lieu, et des mesures de réduction des risques dans les zones où l'alcool est consommé, notamment dans des lieux festifs, mais pas que. Donc, par exemple, les actions municipales de contrôle à des heures et à des lieux précis, la présence d'acteurs de prévention dans des lieux précis, ou alors, par exemple, des mesures envers le consommateur violent prendront en compte la dimension psychologique et addictologique. Et pourquoi pas, lorsqu'il y a des phénomènes de récidive, mettre en place une obligation de soins. Et surtout, et avant tout, on l'oublie souvent, des mesures envers des victimes pour abréagir, pour faire parler, essayer de voir ce qui se passe, la personne qui subit la violence, elle et son entourage, peut-être les enfants, les amis. Donc ça, c'est extrêmement important.
Ce que fait l'Australie, par exemple, d'avoir réduit de 1h30 l'ouverture des bars le soir et qui a diminué là-bas de plus d'un tiers les violences de toutes sortes, est-ce que vous pensez que c'est un exemple à suivre?
C'est un exemple dont il faut s'inspirer. Le suivre peut-être pas, mais je ne sais pas, pourquoi pas, parce qu'il y a des répercussions évidemment dans l'environnement qui est très français, mais s'en inspirer, oui, et c'est important. Si on prend des mesures avec comme arrière-idée ou arrière-pensée la violence subie ou la violence agie, avec l'addiction ou avec l'alcool, on voit bien pourquoi on le fait. Ce n'est pas simplement pénaliser les Français dans leur liberté, ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire, voilà, nous avons la preuve que la présence d'alcool ou de drogue dans une relation conjugale fait subir à une les deux personnes plus rapidement et de manière plus intense la violence, eh bien, nous allons prendre des mesures dans ce sens. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est hélas, même si j'en parle pas directement, souvent les femmes qui en font les frais.
Alors, la fin du Grenelle, c'est dans un mois maintenant. Est-ce qu'il est encore temps d'aborder, d'intégrer cette problématique dans ce cadre-là ?
Un mois, nous avons le temps de faire des choses. Vous avez affaire à des professionnels, nous connaissons le sujet. Nous avons adressé un courrier très détaillé à Mme Schiappa et à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui d'ailleurs nous a répondu par un mail, nous assurant que ce dossier était en cours ou allait être en cours d'étude par la Direction Générale de la Santé. On peut parfaitement le faire. Et si même le Grenelle se termine avant même d'avoir trouvé des mesures très concrètes, on s'engage, les signataires, j'en fais partie, s'engagent à aider les pouvoirs publics et politiques à avancer sur ce dossier.
Qu'est-ce que vous aimeriez entendre là tout de suite de façon urgente de la part du gouvernement ?
C'est qu'on prend en considération les addictions dans les violences conjugales, dans les violences en général, dans les violences conjugales et dans les violences subies par les femmes. On aimerait l'entendre de manière très claire. Voilà.
Mais c'est compliqué pour le gouvernement de se positionner sur ce thème-là ?
Je crois pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est. Il me semble qu'on a eu un retour plutôt positif, du moins verbal. On va avoir des actes. On souhaite que la question de l'addiction dans la société soit prise en compte, non pas sous l'angle de. Disons de la contrainte faite aux Français de consommer moins, mais simplement pour dire que si les professionnels que nous sommes attirent l'attention de la société d'abord et des pouvoirs publics, c'est qu'on a des conséquences directes liées à cette consommation d'alcool excessive. Là, c'est la violence pour les femmes. Hier, c'était sur la santé des Français, et on est là pour attirer l'attention des uns et des autres à travers des chiffres précisément, et pas simplement pour embêter quiconque producteur d'alcool dans le territoire.
Et le message est passé. Merci beaucoup, professeur Amine Benyamina, addictologue, psychiatre et président de la Fédération française d'addictologie. Merci d'avoir été en direct avec nous sur France Culture pour nous parler donc de cette lettre ouverte que vous adressez au gouvernement. Chose promise, chose due, au Liban, le gouvernement se penche sur une série de réformes. L'idée, c'est de calmer la colère qui s'exprime massivement dans la rue depuis 4 jours, Chloé Domain.
Oui, le mouvement ne faiblit pas. Les Libanais sont chaque jour de plus en plus nombreux à crier leur colère. Ce matin, grève générale, les écoles, les administrations publiques et les banques sont fermées. Les routes aussi sont bloquées par des barrages improvisés des manifestants qui renversent des poubelles ou font brûler des pneus. Le but ? Empêcher les gens de se rendre au travail et décentraliser le mouvement. Et ça marche. Les manifestations ont pris une ampleur jamais vue au Liban. À Beyrouth, bien sûr, mais aussi à Tripoli, la grande agglomération du Nord, dans les villes de montagne et même dans le sud du pays, à Saïda et à Tyr, des régions peu habituées à protester contre l'ordre établi. Le Premier ministre Saad Hariri, à la tête d'une coalition fragile, doit s'exprimer dans l'après-midi. C'est la fin d'un compte à rebours qu'il s'est lui-même imposé vendredi, 72 heures, pour trouver une solution. On attend des annonces de réformes, une vingtaine de mesures pour tenter de redresser la situation économique du 3e pays le plus endetté au monde. Mais le chantier est colossal. Le pays vit déjà avec des coupures d'eau et d'électricité quotidiennes. Le secteur public, les écoles, les hôpitaux manquent drastiquement de moyens. Pour les Libanais, la coupe est pleine. Ils ont déjà subi des mesures d'austérité et refusent de nouveaux impôts, alors que la corruption est endémique dans la classe politique.
Chloé Doma à Beyrouth pour France Culture. Le président turc hausse le ton. Recep Tayyip Erdogan accuse les Occidentaux de s'être rangés aux côtés des terroristes contre la Turquie. Le chef d'État ne digère pas les critiques internationales sur l'offensive lancée par Ankara contre les forces kurdes. 10 000 policiers et soldats déployés dans les rues. Le Chili n'avait plus connu ça depuis la dictature Pinochet. Le bilan grimpe à l'instant à 8 morts depuis le début des émeutes il y a 3 jours, déclenchée par la hausse du prix des tickets de métro, hausse depuis annulée par le président. Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour.
Sébastien Piñera s'est exprimé hier soir et d'après lui, le Chili est en guerre.
Oui, et force est de constater que les militaires déployés à Santiago ce week-end ne parviennent pas à maîtriser la situation malgré l'état d'urgence et la reconduction du couvre-feu hier soir dans la capitale. Dimanche après-midi, des militaires ont tiré au plomb sur des manifestants et plusieurs cas de violence des forces de l'ordre ont été rapportés. Parallèlement, des magasins, mais aussi des bus ont encore été saccagés toute la journée, parfois mis à feu. Au moins 8 personnes, vous le disiez, sont mortes dans l'incendie de 2 supermarchés, puis d'un hangar en banlieue de Santiago. Et la colère s'est étendue à de nombreuses villes du pays. États-Unis. Ce lundi, les syndicats étudiants et féministes ont appelé une grève nationale pour demander des réformes sociales profondes. Car si le Chili est généralement vu comme l'un des pays les plus prospères et les plus stables d'Amérique latine, les sujets de mécontentement sont nombreux. Le coût de la vie est comparable à celui de pays comme l'Espagne, alors que la moitié des Chiliens gagnent moins de 500 euros par mois. Les retraites confiées à des fonds de pension privés depuis la dictature sont extrêmement faibles. Le système de santé fonctionne à deux vitesses et les inégalités sociales restent profondes. Dans ce contexte, ce qui semblait au gouvernement être une simple hausse du prix du ticket de métro a déclenché un mouvement de colère jamais vu, vous le disiez, depuis la fin de la dictature du général Pinochet en 1990.
Justine Fontaine, merci beaucoup. En tête, mais avec trop peu d'avance, Evo Morales devrait passer par la case second tour et c'est inédit pour le président socialiste bolivien au pouvoir depuis 13 ans. D'après des résultats partiels, il est talonné par le centriste Carlos Meza, son principal adversaire dans cette présidentielle. Les premiers bureaux de vote ne vont plus tarder à ouvrir au Canada. Élections législatives. Les Canadiens pourraient mettre fin à la majorité absolue dont dispose le Premier ministre Justin Trudeau depuis 4 ans. Et si la principale menace vient du camp conservateur, la soirée pourrait mettre à l'honneur un autre candidat. Un candidat de gauche, Nathanaël Charbonnier.
Il a déjà un nom que personne dans la partie québécoise du Canada n'arrive à prononcer véritablement. Jack Metzing, pas facile. Mais à défaut d'un nom, il a un look particulier puisqu'il est sikh de religion et qu'il apparaît toujours avec un magnifique turban dont seule la couleur change.
Nos adversaires souhaitaient que les gens se limitent à mon apparence et nous ignorent. Mais les gens, ils ont écouté nos idées et ils sont d'accord avec nous.
Jack Met différent, il le sait et en joue roi du selfie. Il a marqué des points, y compris dans la partie francophone du pays. Une gageure quand on sait que la loi 21 sur la laïcité est un véritable dogme. Mais pour ses partisans, ce signe ostentatoire n'est rien comparé à ceux qui avancent masqués. Catherine Roy-Goyette du Nouveau Parti démocratique.
Je pense que pour une grande majorité de la population, ce qui intéresse les gens, c'est pas ce que les gens ont l'air, les politiciens ont l'air, c'est davantage qu'est-ce qu'ils ont à dire. Je tiens à rappeler que l'ancien gouvernement, le gouvernement conservateur, avait un ministre de la science qui était lui-même créationniste et qui portait aucun signe religieux. Alors la laïcité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce que les gens portent ou c'est ce que les gens pensent?
Et en cas de coalition, Jack Metzing pourrait être celui qui demain permettra à Justin Trudeau d'effectuer son second mandat.
Nathanaël Charbonnier, envoyé spécial de France Culture au Canada. Là-bas, les bureaux de vote sont fermés et c'est un triomphe pour les Verts aux élections fédérales suisses. Ils envoient 28 députés à la chambre basse du Parlement et lorgnent maintenant sur un ministère. On peut parler, Jérémy Lange, d'une petite révolution.
C'est l'un des ingrédients de la stabilité politique suisse, la formule magique, celle qui répartit les 7 postes gouvernementaux aux principales formations politiques du pays, 2 à la droite populiste de l'UDC, 2 aux libéraux, 2 aux socialistes et 1 aux chrétiens démocrates. Sauf qu'avec 13% des voix, les Verts pourraient demander à s'asseoir à la table. Regula Ritz est la présidente des Verts suisses.
C'est un changement un peu tectonique. Alors peut-être nous sommes le 4e parti. Si c'est vraiment le cas, on doit discuter peut-être sur un nouveau formule magique, comment on pourrait intégrer mieux les différentes parties et les différentes idées politiques.
Signe de l'ampleur de la vague verte, plusieurs députés nationalistes ont été battus par des candidats écologistes, mais pas de quoi inquiéter la députée de l'UDC à Genève, Céline Amodru, interrogée par la radio-télévision suisse.
C'est clair que nous perdons, plus on est haut, plus on perd. Il n'en demeure pas moins, nous avons 10 points de plus que tous les autres partis. Le plus grand parti de Suisse reste l'UDC.
Tous les autres partis perdent également des points dans une campagne marquée par les marches pour le climat et où l'UDC n'aura jamais réussi à imposer son discours sur l'immigration.
France Culture à Genève avec Jérémy Lange. Depuis son ouverture en 1939, il ne cesse de repousser les murs. Le MoMA de New York rouvre ses portes aujourd'hui après 4 mois de travaux à 450 millions de dollars. Espace d'exposition augmenté, agencement réinventé, promet le musée d'art moderne installé en plein cœur de Manhattan. Le ciel reste couvert cet après-midi avec des nuages pour tout le monde et quelques pluies sur le nord, la Bretagne, un bon quart sud-est et dans les Landes. Pour les températures, on dépasse rarement les 15 degrés, sauf près de la Méditerranée où il fera entre 19 et 21 degrés, jusqu'à 25 pour la Corse. Ce journal a été préparé avec Nicolas Pomé. Prochain rendez-vous de la rédaction à 18h avec le journal de Stanislas Vazak.